de justice qui vont tenir compte des mérites individuels. Et donc, à quoi peut ressembler une critique qui serait radicale? Évidemment à toute autre chose, c'est-à-dire à une critique de la réalité elle-même, et non pas à une critique de la façon dont on fait les épreuves de réalité. Et une critique de la réalité, ça passe d'abord par une critique de ces formats d'épreuves qui constituent le cadre indépassable dans lequel la réalité se trouve formatée. Alors maintenant, je voudrais, dans la seconde partie, essayer... Et donc, évidemment, le travail de construction d'une critique plus radicale va consister à reprendre pied dans une extériorité et de façon à essayer de ressaisir la totalité du cadre des épreuves plus ou moins instituées. Ce que ne peuvent pas faire les personnes. Pas du tout parce qu'elles sont dans l'inconscient, pas du tout parce qu'elles sont abusées, simplement parce que ça ne leur servirait à rien quand elles sont seules, en dehors d'un mouvement politique, et parce qu'elles n'ont pas les instruments pour le faire. Alors, si on reprend maintenant la notion de domination, comment est-ce qu'on peut essayer de reconstruire une notion de domination, un sens de domination, en faisant en quelque sorte un va-et-vient entre une sociologie critique et une sociologie de la critique, et notamment à travers la notion d'épreuve? Alors, je pense qu'il faut d'abord sacrifier des usages du concept. Il faut le restreindre. Je ne suis pas sûr qu'on apprenne beaucoup sur la domination, par exemple, si on explique à un homme ou à une femme que la personne qu'il aime, en fait, s'il l'aime, parce que c'est tout à fait un effet de domination, c'est parce que cette personne est drôlement super chic, lui en impose, et que c'est pas du tout de l'amour, et que je pense que c'est peut-être vrai, peut-être qu'on peut l'ajouter ensuite, mais je pense que c'est un mauvais départ pour comprendre domination. Je pense d'autre part qu'il est utile de distinguer analytiquement exploitation et domination. Il n'y a très certainement pas d'exploitation possible sans domination, j'allais dire, sauf en condition d'esclavagisme, parce qu'au fond, les situations de pure violence, je trouve, ne sont pas des situations de domination très intéressantes. Mais disons, il n'y a certainement pas d'exploitation sans domination, mais les deux concepts visent des choses tout à fait différentes, ont des orientations différentes, parce que l'exploitation renvoie à des différentiels, à l'usage de différentiels pour extraire du profit, quels que soient ces différentiels. Le capitaliste, pour dire vite, est vraiment un art de mettre en œuvre tous les différentiels possibles, dont bien sûr le différentiel de propriété, mais pas seulement le différentiel de propriété pour extraire du profit. Tandis que, je dirais, ça peut paraître bizarre, que la notion de domination est avant tout une notion sémantique qui vise le champ de la détermination de ce qui est, c'est-à-dire la relation entre les formes symboliques et les états de choses, ou dans un langage aspiré par le droit, la détermination des propriétés et la qualification des êtres, y compris de leur valeur. La distinction entre les propriétés et la valeur étant une opération tout à fait artificielle sur laquelle la science fonde son point d'honneur. Alors, bien évidemment, ce n'est pas une pure ontologie pour le plaisir de faire de l'ontologie. Cette détermination de ce qui est, de ce qu'il en est, de ce qui est, ouvre directement sur des directives, sur des règles. Mais le point, à mon avis, est tout à fait important. Et donc, ce travail de domination va passer par une qualification qui va prendre appui sur des formats, sur des types, sur des définitions, et qui va permettre le travail de rapprochement, soit d'une situation, soit d'un objet, par rapport à ses types. On peut dire que c'est logiquement antérieur, d'une certaine façon, à l'exploitation, et notamment au différentiel de propriété, parce que la propriété elle-même ne pourrait pas exister, au moins dans un cadre capitaliste, sans un énorme travail de détermination des relations de propriété, des objets, d'abord d'identification des objets et de construction de la relation entre les objets et les personnes qui les possèdent. Simona Cherutti, par exemple, dans un très bel article sur le droit d'aubaine au XVIIIe siècle, montre à quel point cette relation a été instable entre les objets et les personnes. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je fais une parenthèse, le capitalisme a un besoin essentiel de l'État, dans la mesure où l'État lui fournit non seulement une police, mais également tout un ensemble d'instruments pour lier, pour asseoir les droits de propriété. Un autre point plus compliqué, mais à mon avis également central pour à la fois renforcer domination en le limitant, est la question de la relation entre domination et institution. Dans les années de ma jeunesse, dans les années 70, il y avait une tendance très généralement dans la pensée critique à associer institution et domination, à considérer que le travail des institutions était toujours un travail de domination. Alors, là je vais résumer en quelques mots à quelque chose que j'essaie de développer par ailleurs, qui est l'idée suivante, qui est une défense des institutions, mais pas du tout des institutions au sens d'institutions d'État, et qui ne s'inscrit pas du tout dans le courant actuel un peu, déplorable, y compris à gauche d'ailleurs, il faut défendre l'autorité, il y a quelque chose au-dessus, un peu supio, si vous me permettez cette critique d'un collègue, il faut du droit, il faut du supra-individuel, tout est la faute de l'égoïsme, de l'individualisme, il faut de l'institution. Bon, c'est pas du tout ça, hein. C'est pas du tout ça. Je pars simplement de ce postulat d'incertitude radicale, en essayant de poser la question comment est-ce que l'incertitude est réduite de façon à être acceptable. Alors là, je distingue des situations pratiques où l'incertitude est réduite par le fait de fermer plus ou moins les yeux sur ce qui se passe. Supposez par exemple que vous faites la vaisselle avec des amis à la fin d'un repas, il y en a un qui ne fait que de raconter sa nouvelle théorie critique, il y en a un autre qui est sans arrêt à la plonge, on va faire comme si on ne voyait pas. Il y a en gros une tâche, on n'a pas de règles vraiment, il n'y a pas de format, on ne va pas à l'épreuve, bon, on va avoir une tolérance pratique. C'est comme cela que j'interprète la notion de pratique, notamment chez Pierre Bourdieu, dans l'esquisse d'une théorie de la pratique, qui est un livre que j'aime énormément, et bien évidemment, la vie quotidienne serait impossible sans ces moments pratiques. Mais quand les usages deviennent trop différents les uns des autres, quand ils ne peuvent plus tenir dans un même espace-temps, des conflits apparaissent, et à ce moment-là, habituellement, il y a passage à un autre genre de régime que j'appelle métapragmatique. Métapragmatique parce qu'ils font un usage important du métalangage. Et on va passer de la tolérance pratique. Ah ben attendez, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qui se passe ici? On fait la vaisselle ou on écoute le cours de monsieur? Bon. Et donc à ce moment-là, on va faire une opération consistant à demander ce qui se passe, ce qu'il en est de ce qui est, comment on doit qualifier ce qui se produit. et donc de réduire ainsi l'incertitude. Alors, mon argument, c'est que personne, aucun être humain, ne peut dire ce qu'il en est de ce qui est pour d'autres parce qu'il a un corps. Et que, ayant un corps, il est situé dans l'espace. Moi, je vous vois comme ça, vous voyez comme ça. On n'a pas, on voit pas la même chose. C'est de la bonne vieille phénoménologie. Parce qu'il a une libido, il a des pulsions, des désirs. Parce que la sociologie et l'économie nous ont appris qu'il a des intérêts, parce qu'il est situé socialement. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il puisse dire ce qu'il en est de ce qui est pour d'autres. Évidemment, tous les travaux sur les sociétés dites sans État, comme les Yanomami, moi j'ai une collègue et amie qui spécialise les Yanomami, c'est tout à fait passionnant parce que c'est délicieux, parce qu'on a envie de vivre là-bas, parce que on dit, bon, demain, il va faire beau sans doute, comme dans Ferber, il va faire beau sans doute, ça veut dire, moi je vais au jardin, ça serait bien si quelqu'un venait me donner un coup de main au jardin, bon. Mais on va pas dire, non, vous allez venir au jardin, personne ne peut dire ça. Alors, si on exclut des situations de ce genre, qui est-ce qui peut dire ce qu'il en est de ce qui est ? Un être sans corps. Et évidemment, cet être sans corps, c'est ce qu'on appelle une institution. Pour moi, les institutions sont avant tout des institutions sémantiques, dont l'objet est de dire ce qu'il en est de ce qui est. De dire ça, c'est une bouteille. Non, c'est pas une bouteille, c'est un produit chimique en plastique dangereux. Mais le problème, non, c'est pas moi qui le dis, c'est le être sans corps. Mais le problème, c'est que comme il n'a pas de corps, il ne peut pas parler, et donc il a besoin de porte-parole. Et évidemment, ces porte-parole ayant des corps, ils peuvent bien, quand ils parlent, monter à une tribune, mettre un beau chapeau, changer de voix, faire tout un ensemble de, c'est les deux corps du roi, pour montrer que ce n'est pas leur corps propre, celui qui est bourré de libido, qui parle, mais le corps de l'autre, malgré tout, la suspicion est sans arrêt présente. Et, à mon sens, on a là une contradiction réelle, immanente, au social, qui prend des formes tout à fait différentes dans différents régimes de pouvoir. Je pense, par exemple, que l'importance accordée aujourd'hui au débat entre réalisme et constructionnisme, le fait qu'il est sorti de la philosophie pour rentrer dans le monde de la politique, tient au fait que l'être qui dit ce qui est n'est plus une assemblée d'élus, donc ça n'est plus la contradiction dans sa forme rousseauiste, est-ce que le représentant est vraiment un représentant ou un menteur, mais c'est la forme que prend la contradiction herméneutique quand on demande à l'expertise et à la science de dire ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Alors, donc, si vous voulez, le qu'est-ce que font les institutions? Elles vont sans arrêt confirmer ce qui est. Donc ce régime métapragmatique, je vais le séparer en deux branches. Une branche qui va être le travail conservateur des institutions, avec ses rituels, ses procès, qui va sans arrêt confirmer ce qui est, dire ce qui est sous une forme d'autologie. Si vous voulez, pour moi, l'importance de la redescription permanente des mêmes choses, de la tautologie, de la répétition dans le monde social est extrêmement importante et ne se comprend que comme ça. Il faut sans arrêt réaffirmer ce qui est, parce qu'il y a une autre modalité métapragmatique qui est la critique, qui va dire ce que vous appelez une bouteille, non, c'est une saloperie en plastique qui va vous rendre malade. Et donc la critique qui va sans arrêt aller chercher dans la réalité des éléments qui ne collent pas avec les formats d'épreuves pour mettre en cause les épreuves existantes. Pour être plus exact, je pense qu'on peut distinguer deux genres de critiques. une critique, on va dire, limitée ou réformatrice, qui va prendre pour objet la réalité en tant que la réalité est déjà formatée, et une critique radicale qui va prendre, pas pour objet, mais qui va prendre comme ressource le monde en tant qu'il est tout ce qui arrive, y compris là où s'enracinent les épreuves en soi. Et donc qui va aller chercher des éléments qui vont ne pas coller et qui vont permettre de remettre en cause. Et si vous voulez, on pourrait dire qu'un fonctionnement, si on dit qu'il est impossible de se passer complètement de quelque chose comme des êtres sans corps qui disent ce qui est, et qu'en même temps on sait très bien que c'est pas eux qui parlent, mais que ce sont des êtres de chair qui disent n'importe qui disent, qui peuvent dire uniquement leur intérêt. Cette contradiction peut trouver une forme, non pas être résolue, mais trouver une forme un peu plus satisfaisante dans des boucles permanentes avec la critique. Alors, parce que si vous voulez, là on va trouver un problème. Il y a un problème qu'a rencontré Marcuse quand il essaie de décrire le monde social comme fondé sur la répression à partir d'une architectonique freudienne, et qu'il est obligé de construire la notion de sur-répression.